à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Back from Build. Je m'appelle Sébastien Bertus, je fais partie de l'équipe des évangélistes techniques de Microsoft France et je suis aujourd'hui accompagné de Mitsuru Furuta de la société Sensorit. Salut Mitsu.
Bonjour Seb, en forme?
Très bien, merci. Alors, aujourd'hui nous allons aborder une particularité, une nouveauté qui est arrivée avec Windows 8.update qui est ce qu'on appelle les politiques de changement de sécurité des applications sideloading et d'un nouvel élément qui s'appelle les brokered components. Donc on va voir ça un petit peu. Alors je te propose de faire, Mitsu, un petit récapitulatif de ce que c'est que des applications d'entreprise sideloading.
Tout à fait.
Alors globalement, les applications d'entreprise sideloading, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui n'est pas déployé par le store public Microsoft. Ok, donc finalement, c'est eh bien, des applications d'entreprise qui sont développées, qui ont la vocation d'être déployées sur des machines d'un domaine, par exemple. Et à l'époque, on avait…
Alors, avant… Donc ça, ça a toujours existé depuis Windows 8.
Alors ça, ça a toujours existé depuis Windows 8. C'est ce qu'on appelle les applications LOB, les applications Line of Business. Juste les conditions d'utilisation des applications d'entreprise, c'est quoi? C'est d'abord l'autorisation et un certificat valide. Bon, ça, ce sont des choses que l'on intègre au package que l'on déploie. Et surtout, c'était la licence.
La licence, d'accord.
Alors, la licence, c'est représenté par ce qu'on appelle une clé de sideloading qui permet de débloquer une machine pour pouvoir y déployer des applications qui ne sont pas des applications du store public. D'accord. Donc, il y a une grosse nouveauté qui va arriver à partir du 1er mai. C'est le fait de débloquer le sideloading non pas que pour les machines d'entreprise, qui sont finalement un parc qui est assez restreint, mais aussi pour les applications de type Windows 8 Pro.
D'accord. Donc pour le moment, ce n'est pas vraiment un point technique, hein. C'est juste plus de la licence qui évolue et des droits qui vont s'ouvrir. Hein.
Exactement, mais surtout ça va permettre de débloquer beaucoup de cas, notamment où les clients n'avaient pas forcément envie d'acheter des clés de sideloading par pack de 30
d'accord, qui coûtaient une certaine somme. Jusqu'à aujourd'hui, hein, c'était que les Windows 8 Enterprise, donc pas forcément tout le monde, hein, ou alors les parcs administrés dans certaines conditions, des volume license ou autres.
Exactement.
Et, ou alors, hors de ces scénarios, il fallait qu'on achète des packs de clés qui étaient assez chers, si je me souviens bien.
Voilà, alors qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'avec cette politique, eh bien, on va pouvoir juste acheter une clé pour à peu près $100 et qui ouvriront les droits d'entreprise et on pourra déployer nos applications sur
d'accord,
tout un parc.
D'accord, okay. OK. Et à partir de Windows 8 Pro.
Exactement.
Ou supérieur, évidemment, 8.
Alors, c'est super important de bien comprendre. On va juste bien mettre le focus là-dessus. Ça fonctionne à partir de n'importe quelle version de Windows 8.
Tout à fait.
On n'est pas obligé d'avoir la version Windows 8.1 update pour avoir cette politique de sideloading. D'accord. Très bien. Donc, justement, une fois que maintenant on a bien mis le cadre, qu'on sait ce que c'est qu'une application sideloading, donc vraiment tout ce qui est hors store public, eh bien on a une nouvelle politique qui va nous permettre de communiquer en faisant de l'IPC sans plus de restrictions. Alors l'IPC c'est quoi?
Donc process, communication interprocess en français. Donc aujourd'hui, si vous êtes sous Windows, donc je ne parle pas d'application WinRT, hein, on peut communiquer via des fichiers mappés mémoire, des mutex, des sémaphores, etc. Dans Windows, il y a pas mal d'objets systèmes qui permettent de faire ça. Et c'est bien la communication entre process, c'est-à-dire que ce n'est pas une seule application qui charge des librairies, mais bien plusieurs process différents qui communiquent entre eux. Et jusqu'à aujourd'hui, là, le WinRT était complètement isolé de l'OS. Et on ne pouvait pas communiquer avec. Hein.
D'accord.
Alors, on va voir deux types, un petit peu de communication qu'on peut faire entre le monde WinRT et le monde natif ou .NET, enfin le monde desktop en tout cas.
D'accord. Alors, juste une petite précision, pour que ce soit bien clair avec tout le monde, ce dont on est en train de parler là, c'est vraiment que pour les applications d'entreprise. C'est-à-dire que les applications
oui,
du store public, ça ne fonctionne
ce sont pas. Les applications du store.
Ça, c'est une politique de sécurité qui est toujours valable sur le store public. Quand on est en store privé sur des LOB applications, on va pouvoir bypasser un petit peu ça.
Hors de ce cadre-là, l'isolation reste la même.
Exactement. Voilà. Donc ça, c'est super important. En fait, pour Windows 8.1, il y a deux façons de faire ce qu'on appelle de la communication interprocess. Donc nous avons le loopback et les brokered components. Alors ce que je te propose, c'est qu'on voie ensemble ces deux façons de faire.
Très bien.
Une qui était finalement existante depuis Windows 8, qui était le loopback.
Alors on l'a regroupé un petit peu dans ce contexte, parce qu'on parle de communication justement interprocess entre WinRT et le monde de desktop. Mais en effet, la première technique qu'on va voir qui est le loopback, c'est juste de la communication réseau. Hein, donc on va rentrer dans
finalement,
ce sujet.
Finalement, c'est quand je fais un web serveur qui expose des données en REST, c'est ça finalement.
C'est ça, voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu l'expérience déjà qu'on a vécue si vous êtes développeur en debug. Hein. C'est-à-dire qu'en debug, on voit bien que déjà l'application WinRT, on peut la lancer sans passer par toutes ces logiques de marketplace et autres, ni de clé de sideloading. Et souvent, pour faciliter les débugages, Visual Studio, dans ce mode-là particulier, offre la possibilité de communiquer avec un serveur web, par exemple, ou une communication IP classique, qui serait hostée sur la machine même pour pouvoir débugger. Heureusement. D'accord ? Et puis au final, la target, ce sera Azure ou un service sur Internet. Mais on avait déjà cette possibilité finalement de débug. Et là, c'est vrai qu'on aurait pu se dire que c'est dommage qu'on ne l'ait pas, quand on pose une application sideloaded, parce que ça pourrait résoudre des scénarios d'ouverture. Et on pourrait exposer un service qui nous donne accès à des fichiers qui sont sur la machine, à la Kinect, à des ressources pour lesquelles on n'aurait pas encore accès depuis WinRT. Et offrir une passerelle. Jusqu'à aujourd'hui, cette porte était fermée. Donc c'est au niveau du firewall, hein, on parle vraiment de code de communication et de réseau. Et donc on va voir ensemble comment c'est possible. Donc là, en effet, comme on le voit sur le slide, on va pouvoir communiquer donc avec un point d'entrée. Alors, on avait déjà en WinRT, hein, de store classique, l'accès au réseau, mais on était limité à Internet. C'est-à-dire qu'à travers notre carte réseau, on ne sortait que sur Internet. Et si jamais on avait une loopback, c'est-à-dire une carte réseau locale pour établir une communication avec le desktop, on ne pouvait pas y accéder. Donc la mise en œuvre, elle est extrêmement simple. On a une petite application qui s'appelle Net Isolation Configuration, là, qui est sur CodePlex. Donc il y a également les sources. Alors déjà en local, en tant que développeur, hein, vous pouvez le tester. Vous pouvez installer une application WinRT, lancer cette configuration, et ça ressemble finalement beaucoup à la configuration du firewall de Windows classique. On va voir apparaître l'application, et puis on va lui créditer les droits d'accéder au réseau local. Hein, si je résume un petit peu, c'est ça. Et du coup, alors c'est pas mal aussi également d'avoir les sources, ou la DLL en tout cas, parce qu'on peut faire cette opération, donc pour donner les droits, on peut la faire par programmation également. Du coup, si vous avez un setup pour installer votre application en local, le service en tout cas, puisque là, l'idée c'est de communiquer avec un service qui est local, eh bien, vous allez pouvoir accompagner votre setup dans la même installation du petit bout de code qui va ouvrir la porte à l'application. Donc si je résume, on a l'application, on la déploie par GPO ou autre, par l'administration, elle est sur le poste, on arrive avec un setup, ça installe le service communicant pour l'application, donc le petit serveur, on va vous en faire une démo. Et puis, dans la même install, ça va ouvrir les droits pour cette application à la communication avec le loopback.
Ok, tu nous fais une petite démo ?
Allez, on fait une petite démo. Donc là, je suis dans Visual Studio. Alors, je vais commencer par vous montrer la partie serveur. Ici, alors vous verrez que dans les deux cas, à la fois le serveur et le client, il n'y a rien de spécifique par rapport à cette nouveauté. C'est que l'accès qui est désormais ouvert. Donc là, on a fait du WCF tout ce qu'il y a de classique. On a un petit accès base et on expose la lecture de certaines données. Donc ici, juste, et l'application, pour des raisons de facilité, alors on l'a vraiment hosté au minimum, hein, c'est-à-dire un self-host dans une application console. Et puis pour voir l'appel de notre méthode ici, getCategories, là, on a mis juste un petit write line qui va nous permettre de tracer cet appel. Voilà, donc on va lancer cette application. Voilà. Donc voilà, donc notre service est bien en train de tourner. Là, ça n'a rien de WinRT. C'est un service qui est communicant, qui ouvre un web service et une fonctionnalité qui permet de faire une lecture base sur le desktop. Maintenant, on va lancer l'application cliente qui correspond. Dans cette application, on a rajouté un service reference extrêmement classique également. C'est du réseau, hein. Finalement, c'est du réseau comme avant. C'est exactement le même code, exactement la même classe. Sauf qu'avant, vous n'aviez le droit de sortir que sur Internet. Et désormais, on va pouvoir compter vers une URL qui est locale. Donc, on va attaquer cette méthode ici. Puis voilà, on vous montre juste symboliquement ici l'appel au service Northwind ici. On appelle la fonction ici getCategories, donc qui était un appel WCF. Là, on est bien dans le monde WinRT. L'application va se lancer. On lance l'application. Là, on a un petit peu, on va choisir notre source qui est SQL, donc on fait un get categories, on est prompté ici, on va récupérer bientôt les résultats, donc l'appel du web service se fait. Voilà, on a récupéré l'appel. Si on regarde dans notre log côté serveur, on a bien le nom de notre méthode qui a bien été appelée. Et voilà, donc c'est là, c'est mine de rien, c'est pas grand chose, mais ça ouvre beaucoup de scénarios. Si vous avez des ressources locales, des fichiers qui font des gigas, qui ne sont pas déployables par le store facilement, ou des données propres à votre réseau, vous pouvez les exposer maintenant. Vous avez une passerelle qui est ouverte. Et donc ça ouvre déjà quand même pas mal de scénarios à travers des web services. Mais en fait, ça marche même avec des sockets, hein, des connexions plus bas niveau. Hein, ça fonctionne également, Seb.
D'accord.
Le deuxième point donc, de notre agenda, donc, c'est les brokered components. Donc c'est un autre moyen qui est communicant également, mais qui est un petit peu différent.
C'est vrai. Alors les brokered components, par contre ça, il faut être bien clair, par rapport au loopback qui est déjà accessible et qui permet rétroactivement de faire fonctionner des applications Windows 8 dans ce sens-là, les brokered components, c'est vraiment quelque chose qui est complètement nouveau et qui arrive avec la mise à jour de Windows 8.1.
Tout à fait.
La mise à jour update 1. Donc là, on n'est plus dans une philosophie où on va avoir un côté un monde .NET qui est accessible via un serveur web ou via une communication IPC classique. Là, on est vraiment dans un composant qu'on va directement référencer dans une application WinRT et qui, lui, va accéder à des ressources du desktop et donc souvent des ressources .NET. Donc juste pour l'idée, globalement, ces composants vont être activés dans un process un petit peu externe, mais tu vas nous en reparler juste après. Voilà un petit peu l'idée. Alors Mitsu, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce système?
Oui, alors donc après on déclinera en effet plusieurs scénarios, ouais. dont on avait parlé Seb. Ici, donc là c'est pour rassurer un petit peu les gens également. Ça reste de la communication. On n'est plus dans l'idée d'attacher une librairie. Contrairement à tout à l'heure où vous êtes de l'interprocess. Par contre, là, on va respecter l'isolation de WinRT, bien que l'application ne soit pas issue du store. Mais on va donc communiquer avec le monde du desktop à travers le broker. Et on va voir qu'il y a certains codes, certains proxys, etc. Mais il va falloir qu'on respecte certaines choses, dont les metadatas, etc. Et en tout cas, le techniquement, ce qui va se passer au niveau de l'architecture ici, c'est que c'est pas le code, la librairie ne sera pas in process hein, à la vue de WinRT. Elle sera bien externe, elle sera chargée, la CLR sera hostée comme si on était appelé depuis un autre monde, comme Office sait le faire par exemple, hein, ou d'autres scénarios. Et donc on aura un hosting de CLR ici, on sera bien isolé. Et du coup, on va voir du coup que pour arriver à ça, il y a quelques efforts quand même à faire, dont remarchaler les données dans un format qui est compatible avec WinMD, s'il y a une exposition de type qui est compatible à leur format, l'asynchronisme compatible, etc.
Alors justement, il y a deux scénarios possibles sur les brokered components qu'on a un petit peu découvert. Alors d'ailleurs, je vous enjoins tous à regarder la vidéo de la build. Qui parle de ces brokered components. Mais nous, on a rajouté un petit peu les scénarios parce que je trouve que c'est quand même assez révélateur de ces brokered components qui est finalement le fait de pouvoir réutiliser, alors là j'ai mis du code existant, mais même plus des assemblées existantes sur lesquelles on n'a pas forcément le source. Mais on va faire ce qu'on appelle du marshalling. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que finalement ce concept de marshalling et pourquoi est-ce que ça peut être intéressant dans certains cas et pas dans d'autres.
Oui, alors, quand on communique ici, donc déjà en WinRT tout court, hein, c'est des objets COM. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau de l'architecture et de restrictions également, afin que les composants soient compatibles à travers les différents formats qui sont exposables dans WinRT, à savoir du C++, du .NET ou du JavaScript. D'accord ? Et pour ceux qui ont fait un petit peu de com, il y a la partie interface, l'équivalent de la type library avant, et puis la partie assembly, donc le code. Tout ça aujourd'hui est plus ou moins fusionné sous un package qu'on nomme WinMD, et donc qui embarque les metadata, et également du coup cette même logique d'export des librairies et des interfaces. Mais dans les interfaces, il y a des méthodes, et ces méthodes elles portent également des arguments. Les méthodes sont creuses, mais les arguments, à un moment, il y a des données, et ces données, elles ne sont pas forcément compatibles. Elles sont allouées en mémoire dans un espace, elles sont gérées par un GAC ou pas, ce genre de choses. Et surtout, elles ont des formats qui doivent répondre à la, par exemple, à l'interface. Donc tous les objets qui sont manipulables dans WinRT doivent exposer des interfaces WinMD. Mm. Et si je reprends un code existant, une DLL existante ou un code existant avec des classes que j'ai faites en .NET, etc., elles ne sont pas forcément compatibles avec ce mode-là. D'accord ? C'est donc dans l'exemple qu'on va reprendre ensemble, si vous avez juste un customer tout bête hein, qui expose un certain nombre de données, certaines data, etc., les types finaux qui seront exportés n'auront pas forcément d'interface exposée. Donc on va être obligé de les marshaller, c'est-à-dire de recopier sur une structure équivalente, compatible. Donc on va avoir un customer .NET et on va le remettre dans un customer broker qui, lui, va exposer toutes les interfaces WinMD à la compilation de ce broker et du coup être compatible avec l'exposition et l'usage depuis l'application WinRT.
D'accord. Donc pour être très très pragmatique dans l'approche, finalement, cette histoire de marshalling, en fait, on va recopier les propriétés d'une instance dans la même instance, mais qui sera exposée en WinMD.
Exactement.
Et donc pour éviter ce comportement un petit peu particulier, si on a la chance d'avoir accès au code source, si on peut le modifier, ou si on part carrément d'un nouveau composant,
tout
l'intérêt du truc, c'est de directement créer ces entités.
Oui.
Mais donc dans côté WinRT.
En effet, j'ai parlé du coup de recopie de données pour les mettre dans une classe qui est au bon format. Mm. Évidemment, si on a les sources, on n'a pas besoin de faire le broker et l'assemblée .NET. Mm. On reprend notre code .NET et on l'adapte directement pour le broker pour qu'il cible Windows RT. D'accord. Le marshalling, on le retrouve dans d'autres communications entre demandes. Pour ceux qui ont déjà appelé du code natif C++ depuis du .NET, déjà, par exemple, si le format de chaîne de caractères est différent, lors de la communication, quand on récupère un pointeur, il fallait qu'on marshalle la donnée pour la remettre au format string .NET pour qu'on puisse l'utiliser. Là, c'est à peu près pareil avec les contraintes de WinRT et notamment l'exposition des métadatas.
OK. Quelque chose qui est assez important, qu'il faut bien noter, par contre, c'est que tout ça, ce n'est pas simple à mettre en place.
Alors aujourd'hui, parce que ça, franchement, on espère que…
Qu'il y aura des templates, etc.
Qu'il y aura des templates.
Mais alors, effectivement.
Et des targets, surtout,
exactement.
De compilation.
Et surtout, ça va nécessiter ce qu'on appelle une DLL C++, qui va être enregistrée dans la registrie, donc RegSRV32, pour ceux qui se rappellent. Donc tout ça, évidemment, ça va être plus ou moins automatisé. Aujourd'hui, il faut récupérer des samples d'exe existants pour pouvoir s'adapter. Donc ces samples, vous les aurez sur code.msdn.com, qui vont permettre de créer cette DLC++. Alors tout ça, on peut l'automatiser avec des scripts, etc.
Alors aujourd'hui, c'est automatisé, mais beaucoup à la main quand même.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors juste avant de passer à l'exemple qu'on va faire, que je te montrerai, juste un petit récapitulatif de la différence entre le loopback et le broker de components. Donc finalement, ce qui est super important, je crois que c'est la première ligne, c'est que le loopback, ça fonctionne avec Windows 8.
Oui, c'est qu'une histoire de droit.
C'est qu'une histoire de droit.
Donc,
comme on a allégé la politique pour les sideloading applications, donc ça fonctionne. C'est basé sur finalement un modèle d'exposition de données via un serveur, que ce soit un serveur web ou un serveur TCP, peu importe. Tandis que l'autre, on est vraiment dans un modèle, j'intègre une assemblée qui va être une sorte d'assemblée mixte, qui s'appelle pas mal assemblée broker.
Oui.
Quelque chose que l'on… Donc évidemment, ça nécessite un host, etc., pas de souci. Et quelque chose qui est assez intéressant aussi, que moi j'aime bien, c'est qu'avec les brokers de components, on va pouvoir réveiller une application qui est suspendue.
Oui, en effet, l'autre, comme il y avait vraiment deux process…
Complètement séparés.
Complètement séparés. Si jamais l'application WinRT partait en suspended, la connexion est coupée. Hein. C'est comme si on avait coupé le câble, comme si l'application était éteinte. Et du coup, évidemment, l'autre process ne peut pas réveiller si jamais il y avait un callback qui était latent, lent, une communication duplex ou autre. On ne peut pas réveiller l'application WinRT puisqu'on est vraiment exécuté dans l'autre monde.
Exactement.
Alors que là, on a une DLL qui est réellement mixte. Et même si elle est isolée au niveau de la mémoire, elle est quand même déjà un pied dans le monde de WinRT.
Exactement. OK. Donc, partant de là, je te propose qu'on regarde un petit peu un petit exemple. Donc, encore une fois, c'est un exemple que vous pourrez récupérer sur code.msdn.com. D'ailleurs, ça a été l'exemple qui a été présenté pendant la build en plénière, qui a fait son petit effet d'ailleurs sur tout le monde parce qu'on a réutilisé SQL Server CE pour exposer des données. Donc, on sait qu'SQL Server CE ne fonctionne pas sur WinRT. Mm-hmm. Par contre, il fonctionne bien dans le monde .NET classique. Donc ici, j'ai un ensemble de projets. Je vais juste vite fait les récapituler. Donc ici, tu as d'abord la dalle. Cette fameuse dalle qui est une dalle .NET classique sur laquelle on va accéder à un ensemble d'entités via une base de données SQL Server CE avec une commande, etc.
D'accord ? Très classique.
Très classique, voilà. Pour l'exemple, évidemment, de la gel source, mais pour l'exemple, on pourrait imaginer que c'est quelque chose que l'on ne peut pas modifier. Mm-hmm. Donc, on va faire ce qu'on
D'accord. a D'accord. Donc, dans l'idée, ouais, dans là, l'idée, je vois, tu as une application Windows Forms.
Exactement.
Donc, tu as un existant avec la librairie d'accès aux données.
Exactement.
Et l'application cliente.
Exactement. Alors, évidemment, l'application Windows Forms est juste moche. Hein, mais ouais. C'était finalement ce qu'on faisait à l'époque en Windows Forms. Hein.
Tout à fait.
Voilà. OK. Donc, ça, ça utilise cette librairie.
Au lieu de tout refaire, là, je vais pouvoir.
Directement.
Entrer dans un scénario voilà. où je peux exploiter cette librairie.
Exactement. Donc là, je vais te montrer quelque chose. C'est la fameuse assembly. Donc là, on est vraiment dans le monde WinRT. Mm-hmm. Donc j'ai créé une assembly. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai utilisé le template de projet C# classique pour créer oui. cette assembly.
Tout à fait.
Et tu vois d'ailleurs que pour au niveau des références, j'ai des références. Mais tu vois, ce sont des références .NET. Hein.
Oui. Tout à fait.
Sauf qu'ici, tu vois, dans l'application ici, ben, tu n'as pas de l'output classique qui ne connaît oui. pas. Donc ça, c'est parce que Visual Studio encore n'est pas à jour de ça.
Oui.
Et si on regarde, alors vite fait, je vais aller très très vite, je vais te montrer le projet. Les metadata du projet CSproj. Tu vois qu'ici, j'ai un output type de type WinMD-OBJ.
D'accord.
Donc en fait, les directives MSBuild vont voir que c'est du WinMD-OBJ oui. et va vraiment faire un Windows Runtime Component.
D'accord.
OK, ça c'est pas mal. Donc il y a deux autres choses à faire, donc le manifeste, etc. Mais bref, je vais passer là-dessus. Je vais recharger le projet. Tu vois qu'ici, j'ai rajouté la référence à ma DAL, Northwind.DAL.
Oui.
Et ici, dans Database, eh bien, je rappelle directement ma DAL, qui
d'accord,
est ici.
D'accord.
Et par contre, tu vois.
Donc du vrai code .NET, là.
Du vrai code .NET. Mais par contre, comme tu disais.
Que tu as bien nommé HoldDB.
Ouais, HoldDB.
Ouais.
Et pour la petite info, donc là, on est dans un cas particulier qui est donc ce fameux système de marshalling. Et là, on le voit bien. Hein.
Oui.
J'ai des entités qui sont
oui.
WinRT,
oui.
qui seront donc exposées correctement.
D'accord.
Et ici, eh bien, oui. je recopie chacune des propriétés.
D'accord. Parce que donc, ces classes font partie de la DLL mixte et elles vont être compilées de manière différente qu'une DLL.NET.
Exactement.
Et vont embarquer les metadata WinMD qui lui permettront d'être accessibles par l'application WinRT.
Alors là, c'est vrai que pour cet exemple-là, bon, ben, on fait du marshalling forcément. C'est vrai que si on a accès aux sources de la DAL.
Oui, on aurait pu tout simplement recompiler dans cet environnement la classe catégorie d'origine.
Voilà. Et on aurait évité le marshalling.
Ouais.
Bref. Et après, ici, vous avez cette fameuse DLL C++ dans laquelle j'ai un point H qui est donc le header et le source file. Ça, ne vous inquiétez pas, ça vous paraît barbare comme ça, mais on a…
Tu ne commandes pas l'ensemble des lignes?
Non, je ne vais pas tout commenter. Surtout qu'elle s'est générée pour vous. En fait, tu verras qu'il y a
des batchs
qui vont directement générer ce code pour vous. Donc, en fait, on ne le fait qu'une seule fois, ou en tout cas, chaque fois qu'on change la structure d'exposition de nos méthodes et de nos propriétés.
Oui.
Et ça génère ce code-là, on l'enregistre avec un fichier, avec un petit script PowerShell, ça va faire le regsrv32 qui va bien. Et après, on n'a plus qu'à l'utiliser.
Donc d'accord là, pour le moment, tu as mis tout ça en post-build, j'imagine.
J'ai mis tout ça en post-build. Et enfin, j'ai mon application WinRT classique. Et tu vois qu'ici, j'ai rajouté la référence à la DAL version WinRT.
Oui.
OK. À partir de là, je peux donc directement l'utiliser dans ma page. Et tu vois qu'ici, je passe donc par. Donc, je vais récupérer ici. Donc, je vais récupérer dans un modèle de vue modèle. Donc, pattern MVVM, pardon, je vais
oui,
y arriver.
Oui.
Donc, pattern MVVM classique.
On avait compris.
Bref. Et donc, ici, j'ai ma DAL que je peux utiliser qui va donc récupérer ces catégories d'une base de données. Est-ce que le serveur compact. Et
très
donc,
bien.
Alors évidemment, à l'exécution, on va mettre ça en projet de démarrage. Et donc ici, j'ai une application qui est un peu plus sympathique, quelque chose qui vraiment ressemble à ce qu'on a l'habitude de voir en Modern UI. Et toutes les données que j'ai ici proviennent d'une base de données SQL Server CE.
Qui est donc locale à la machine.
Qui est donc locale à la machine. Voilà. Et si cette base de données, alors après d'autres exemples, vous verrez, on a d'autres exemples avec des File System Watcher qui
oui.
permettent de lever des événements que l'on peut récupérer côté WinRT pour pouvoir par exemple réveiller l'application si elle est en mode suspendu. Donc il va ouvrir des scénarios d'entreprise qui sont quand même assez sympathiques.
Tout à fait. Et puis réutiliser l'existant, ce qui est quand même un point vraiment important dans nos deux scénarios. Hein. Si là on a pris un exemple simple, on avait même les sources. Mais dans les cas où on a des centaines de DLL qu'on a développées depuis des années.
Où on a finalement que les interfaces qui sont exposées.
Voilà, on peut les revrapper au moins dans leur interface et puis continuer à les utiliser.
D'accord. Très bien. Alors juste pour conclure, pour aller très très vite, donc deux nouveaux modèles. Donc d'abord l'assouplissement de la politique qui permet de faire du loopback.
Oui.
Donc avec, finalement on expose un serveur web local. Et ces nouveaux Procode Components que l'on peut intégrer directement dans du code. Mais ces deux façons de faire, encore une fois, on le dit, on le répète, ça ne marche que pour des applications side-loading, qui sont donc des applications qui sont hors store public.
D'accord. Et pour le premier cas, c'est indépendant de la version de Windows 8.
Exactement.
Pour le deuxième cas, c'est que le dernier update de Windows 8.1.
Très bien. Mais écoute, Mitsu, je te remercie d'être venu nous présenter ces deux nouveautés.
Ben, merci à toi, Seb, de m'avoir proposé.
Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.